Tbilissi Nice, un aller simple pour le 7e art avec Akaki Popkadze.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Un thriller qui castagne dans les faubourgs de Nice, un parfum géorgien sur les écrans français, un amour du cinéma léché, bienvenue au pays d'Akaki Popkadze. Un nom qui castagne, lui aussi, venu des montagnes caucasiennes, enneigées, orthodoxes, patriarcales. Qu'est-ce qui fait une signature au cinéma ? Dans le cas de Popkadze, 33 ans, scénariste-réalisateur de Brûle le sang, un premier long métrage très maîtrisé, dans son cas, sans doute un chemin de vie, de croyance et une concentration de geek du 7e art. Au menu de cette conversation à l'humeur un peu traînante, de la Russie aussi, Tarkovsky, le Nouveau Testament, Robert Bresson et l'accent d'une grand-mère nommée Darijan. Et là, on peut dire que c'est signé Akaki ou Aka pour les intimes. Bonjour et Mabrdanzi, Akaki Popkadze.
Mabrdanzi. Merci, bonjour Yasmine.
J'ai tenté de dire bienvenue en géorgien, redites-moi ça.
Oui, j'ai compris, c'est Mobrdzandi.
Oui, vous avez deviné plutôt. Avant de découvrir Brûle le sang avec à l'affiche Nicolas Duvauchel, Florent Hill, Finnegan Oldfield et Denis Lavant, waouh, j'aimerais qu'on retourne dans la neige de votre court-métrage « Ici en silence, tout hurle ». Co-écrit d'ailleurs avec Florent Hill, film qui aura été en compétition en 2024 au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Il était une fois un jeune homme qui aimait en secret la sœur de son ami d'enfance. Nous sommes dans les montagnes géorgiennes. La jeune fille vendant des icônes de la Vierge est embrassée furtivement par le jeune homme. La nuit, il se retrouve, il lui apprend à tirer à la carabine. Puis ils font l'amour dans la voiture. Lorsqu'à 11 minutes du film, le frère entre brutalement dans la chambre de sa sœur, la renverse par terre, la frappe et lui tond les cheveux. Un film, ici en silence tout hurle, Akaki Popkadze, qui est ponctué par des mots-clés, amour, rumeur, mariage. Le mot essentiel, peut-être, au pays de la tradition étant la rumeur.
Oui. Je ne sais pas si on peut dire heureusement ou malheureusement, mais c'est vrai que ces trois mots définissent assez bien mon pays d'origine, où l'amour fait partie de base du centre, enfin, c'est l'humanité en fait, plus que la Géorgie. Et le mariage qui est très important pour les Géorgiens en général, parce que c'est aussi une des pierres angulaires de la famille comme institution et qui découle aussi de notre croyance chrétienne. Mais malheureusement, la rumeur fait aussi partie de ce quotidien, de cette vie, de cette communauté qui emmène souvent beaucoup de malheur sur les personnes qui la subissent. Ou sur les personnes qui la pratiquent aussi.
Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de travailler sur cette question de la rumeur ?
Je trouvais que c'était assez... alors déjà, cocasse pour ce film-là où il n'y a pas de verbe de prononcer, en fait. Donc,
film
ça
muet,
faisait un peu
quasiment.
Rire intérieurement de parler de la rumeur dans un film muet. Où la partie centrale est basée sur la rumeur, mais qui a l'air d'une toute petite chose, de rien du tout. C'est un mot, c'est frivole, c'est éphémère, mais une fois qu'il est prononcé, il peut emmener un grand malheur.
Un tout petit mot de rien du tout, prononcé donc au pays de la coutume, c'est l'autre mot-clé en fait, hein. Adat, je crois, dit-on
oui.
En géorgien. Qu'est-ce qui vous intéresse en fait dans cette dimension de la coutume ?
D'ailleurs, c'était le titre avant que le film s'appelle « Ici en silence, tout hurle ». Le projet de film s'appelait « Adat ». La coutume, moi j'aime beaucoup quand il y a des coutumes et quand elles sont respectées et quand des fois on est tenté de les enfreindre en fait. Et c'est comme si on voulait casser un maillon de la chaîne qui nous connecte avec nos ancêtres, avec l'histoire, avec la terre d'où on vient, avec les racines. Et je penche quand même plus vers le côté où il faut que les mailles restent entrelacées et bien fort malgré ce soit dur, malgré on soit tenté de les briser. Des fois, il faut les briser peut-être, mais...
Donc toujours entre la connexion et la transgression. Cette tradition géorgienne, Akaki Popkadze, pleine de cloches, de codes, de voix polyphoniques aussi, c'est votre source première. Allons y voir de plus près.
Pays comme pays secret, pays d'enfance.
Ah oui, il faut forcément des voix polyphoniques pour retourner en Géorgie. Sur RFI, vous pensez à quoi, Akaki Popkadze, en entendant l'ensemble Marani?
Là, j'ai la chair de poule. Là, ça me replonge dans mon enfance. Ça me replonge. Là, je vois des images de mon village et de mon papy qui presse le raisin pour faire du vin. Et là, c'est vraiment une musique emblématique de mon pays d'origine. La Mraval Jamieri, ça veut dire longue vie. Et donc, c'est une musique d'espoir aussi, d'amour. Voilà, j'ai pas trop les mots pour définir les sentiments, mais c'est...
Mmh, on y est. La Géorgie où vous êtes né en 91, mais où vous ne grandirez pas tout de suite. Qu'est-ce qui fait qu'on est quelque part, mais qu'on grandit ailleurs?
Effectivement, moi j'ai grandi en Russie, à Moscou, pendant une dizaine d'années.
Enfin, c'était encore l'Union soviétique.
Non, c'était à la chute
de l'UVSS. En 91, le mur était déjà tombé.
En 91, la Géorgie devient indépendante, le mur était tombé, le bloc soviétique était
démantelé.
Donc, c'était toute cette période de restructuration, de remue-ménage politique, identitaire et de mouvement de peuples qui certains revenaient dans leur pays où ils étaient, et nous on a fait un choix différent, c'est-à-dire c'est de s'expatrier à ce moment-là de la Géorgie natale pour aller vivre en Russie pour des raisons qui me semblent plutôt assez floues pour l'instant. J'ai jamais eu cette conversation très concrète avec mon père notamment, et je lui ai jamais vraiment demandé la raison exacte de cet exil.
Mais donc, vous grandissez dans cette Russie post-soviétique, c'était comment? Vous avez des souvenirs?
J'ai très peu de souvenirs de mon très jeune âge. Je me rappelle vaguement du métro, du froid, des mini stalactites qui se créent sur les sourcils, parce qu'il fait vraiment moins 30 et on va à l'école. C'est normal en Russie, l'hiver. J'ai très peu de souvenirs. C'est assez frustrant.
Une mère professeure de piano, un père qui fait du baseball en professionnel.
Oui, c'est assez insolite pour l'époque. Il était capitaine de l'équipe de l'URSS. Ils ont joué, l'équipe de l'URSS a joué les Goodwill Games aux États-Unis à l'époque. Et donc mon père a fait un voyage où il a joué à Cuba, aux États-Unis.
Et alors qu'est-ce qu'ils font quand ils rentrent en Géorgie ?
Alors mon père, il se lance dans la politique. Il faisait partie du gouvernement en place pendant le mandat de président Edouard Shevardnadze, qui a été déchu par une guerre civile, enfin une révolution interne au pays en 2003, la révolution des Roses. Mm-hmm. Et donc à ce moment-là, c'est un monsieur Saakashvili qui est venu au pouvoir. Et c'est à la suite de ces événements qu'on a quitté la Géorgie, donc une nouvelle fois, cette fois-ci pour la France et la ville de Nice.
Nouvel arrachement. Alors avec tout ça, en tout cas de façon en sol majeur, Akaki, vous avez 12 ans. À partir de 12 ans, dites-moi si je me trompe, ces chants orthodoxes deviennent un peu votre quotidien ?
Alors 13 plus exactement. On arrive en octobre 2004, je viens d'avoir 13 ans. Et dans la ville de Nice, il y a une église orthodoxe russe. Et on a commencé à côtoyer cette paroisse tous les dimanches, enfin les samedis soirs pour l'office, le dimanche pour la messe. Se rapprocher de la communauté chrétienne orthodoxe niçoise qui est composée de Russes, de Moldaves, d'Ukrainiens, de Grecs, de Géorgiens. Et cette vie paroissiale est devenue un peu notre quotidien. Et les messes de dimanche ont commencé à rythmer ma vie. Je suis devenu enfant de chœur à l'hôtel pour aider le prêtre dans les offices.
Vous aimiez ça ?
Oui, j'aimais ça. Des fois, je pensais que j'y allais que par l'habitude, que par volonté des parents. Et en fait, j'ai aussi beaucoup rencontré de personnes comme ça, appris des choses. Désormais, quand je retourne à l'église, des fois, le dimanche, et je vois d'autres enfants de chœur qui aident à la procession, je me dis, c'était bien quand même, et j'aimerais bien donner un coup de main encore et tenir la bougie, et participer en fait, être plus actif. Mais peut-être c'est juste des pensées d'un mec qui prend de l'âge, oui. Et c'est de la nostalgie peut-être.
Par rapport à l'enfance, c'est un grand classique. Alors, la messe, si je vous ai bien entendu, elle était forcément en russe, elle n'était pas en géorgien.
Alors, elle n'était pas en géorgien, elle était en franco-russe. Elle est toujours en franco-russe d'ailleurs.
Autrement dit, qu'est-ce que vous ramenez de la culture géorgienne en arrivant à Nice, au sud de la France ?
Très bonne question. Moi, je viens avec ma langue, que je ne maîtrise pas tout à fait parfaitement parce que, ayant grandi en Russie et ayant passé très peu d'années en Géorgie, je parle mieux le russe, moins bien le géorgien, mais je dois tout de suite apprendre le français pour pouvoir m'intégrer. C'est à ce moment-là que mes parents ont instauré une règle, c'était « Ok, à la maison, on ne parle qu'en géorgien, parce que le français... » Mon père me disait, tu vas dans tous les cas, de toute façon, à l'école, avec les amis, dans la rue, tu vas l'apprendre, tu vas le perfectionner, mais il ne faut pas qu'on oublie nos origines. Et c'est grâce à ça, et à cette règle-là, qu'aujourd'hui, je parle très bien la langue géorgienne, au moins aussi bien que la langue française.
Alors, grâce à cette règle paternelle, mais aussi peut-être à Hercule Poirot ?
Alors à Hercule Poirot, je le remercie beaucoup parce que c'est grâce à lui que j'apprends les premiers mots en français. En fait, au début, mon quotidien était assez ennuyeux, je dirais, dans le sens où j'allais au début pas à l'école. On était logés dans un hôtel meublé grâce à une structure associative qui nous a accueillis en tant que réfugiés politiques. Et on avait eu une vieille télé, et sur je ne sais plus quelle chaîne, il y avait les épisodes d'Hercule Poirot qui passaient tous les jours en boucle. Et j'ai appris beaucoup de mon français de la part d'un enquêteur belge, si je me rappelle bien.
Oui, absolument. À quoi ça tient ? Justement, je me disais, Akaki Popkadze, ça fait bien 5 minutes qu'on n'a pas causé cinéma.
Oui.
Séance de rattrapage, immédiatement, avec un petit peu, pour en sol majeur, de Tarkovski. 1932-1986, cinéaste soviétique, à vous je n'apprends rien bien sûr, qui nous aura laissé quelques chefs-d'œuvre, dont Le Sacrifice, c'est un film qui est sur votre table de chevet, je le sais. Le film s'ouvre sur l'image gris-vert d'un homme en train de planter un arbre.
Oh, nu får du allt komma och hjälpa mig, folken min.
Viens m'aider, mon garçon.
En gång för mycket länge sedan, förstår du.
Et était une fois, il y a longtemps,
så var det en gammal munk från ett
un vieux moine
orthodoxe kloster.
Dans un monastère orthodoxe.
Pamve hette han.
Il s'appelait Pamve.
Som planterade ett torrt träd på ett berg.
Il planta un arbre sec,
just så här,
comme celui-ci, sur une montagne.
Och till sin lärjunge,
à son disciple, un moine nommé
Johan
Koloff,
sa Pamve att han skulle
Pamve dit
vattna det där trädet varje dag tills det fick liv.
D'arroser l'arbre chaque jour.
Jag får lite stenar där nu då.
Jusqu'à ce qu'il s'épanouisse.
Och så tidigt varje morgon så fyllde Johan en spann med vatten och gav sig av.
Alors on va le laisser continuer à deviser sur cette première note théologique, Akaki. Qu'est-ce qui, dans ce film de Tarkovsky en particulier, je ne sais pas, au niveau des thèmes, ou peut-être même de la grammaire cinématographique, qu'est-ce qui vous a tant séduit ?
Je trouve que c'est une ouverture magnifique de film. Cette idée d'arroser un arbre qui est déjà mort et déraciné, pour moi, c'est la plus belle métaphore de la foi, en fait, qui peut déplacer les montagnes comme raviver un arbre mort. Et je vais même vous dire un petit secret, c'est-à-dire que tellement ce film m'avait marqué à l'époque que dans mon long métrage, Brûle sang, mon premier long métrage, il y a le personnage de la maman qui est seule, assise dans la cuisine. C'est à peu près vers la fin du film, avec un long travelling avant, et on termine sur elle. Et elle allait chercher un petit vase avec de l'eau, elle sortait sur le balcon et elle arrose des fleurs fanées. Et on terminait sur cette image-là de la mère qui arrose des fleurs fanées. Pour moi, c'était la métaphore de son espoir à elle de retrouver ses enfants.
Un hommage aussi à Tarkovsky.
Et un hommage, bien sûr, à Tarkovsky et à cette première image-là. Et Tarkovsky, oui, moi j'aime beaucoup parce que c'est un homme de foi, c'est un homme qui s'est beaucoup interrogé sur l'utilité de son art et sur l'élévation spirituelle par l'art. Et
dans un pays où la censure était
très très forte, bien sûr, dans un pays où il fallait trouver beaucoup de combines pour arriver à ses fins d'un point de vue artistique.
Parce que là, en parlant d'un arbre qu'il faut arroser, donc en se réfugiant derrière la métaphore mystique, il dénonce quelque chose ?
Je pense qu'il dénonce déjà son déracinement personnel, où il a dû fuir la Russie, enfin l'Union soviétique. Donc c'est un homme exilé, c'est un homme qui fait comme il peut dans un pays étranger où il ne maîtrise pas forcément la langue. Donc
oui,
bien joué, yes.
Cela dit, comment dans cette vie d'arrachement qu'on esquissait, dans cette vie d'exil qui est la vôtre, Akaki Popkadze, comment le cinéma vous tombe dessus ?
Alors j'ai plein de réponses comme pas de réponses parce que c'est quelque chose qui était toujours là, j'ai l'impression, et moi j'ai toujours été cinéphile, cinéphage je dirais plus.
Ah oui,
j'ai toujours regardé vraiment tout ce que je pouvais regarder. Mmh. Et la cinéphilie vraiment je l'ai découvert beaucoup plus tard en école de cinéma et en côtoyant les salles obscures. Pour moi, en Géorgie, il était difficile d'accéder à des salles de cinéma qui étaient rares, chères.
Votre premier film, c'est un film sur les dinosaures, un Disney.
Oui, c'est un Disney sur les dinosaures que mon père m'a emmené voir.
Alors à Nice, vous allez faire l'ESRA, l'École supérieure de réalisation audiovisuelle. Comment vous la financez d'ailleurs, cette école ?
Alors l'ESRA Côte d'Azur, c'est une école donc privée, qui coûte le prix qu'elle coûte, mais en tout cas, c'était très cher pour moi, je ne pouvais pas me la payer. Et je travaillais dans un établissement de nuit, un piano bar qui se transforme en club de nuit à Monaco, pas très loin de Nice, une petite demi-heure. Et c'est un établissement ouvert été comme hiver. Et moi, je travaillais là-bas en tant que serveur, en tant que préparateur de narguilé, en fait.
Waouh!
C'est des gens qui fument la chicha, en ouais, gros, ouais, après les dîners. Et c'est avec le salaire de ce travail-là que je payais l'école. Et donc, en gros, je bossais la nuit dans cet établissement. Je rentrais à la maison, je dormais 2-3 heures et puis à 9 heures, j'étais en cours.
Cela dit, c'est un poste d'observation incroyable, j'imagine, pour trouver matière à histoire.
Oui. Alors, c'est un poste où on est très silencieux, où on ne parle pas beaucoup avec les gens, sauf ceux qui veulent commander à fumer, ouais, un narguilé. Ce n'est pas comme un serveur qui est tout le temps en contact avec tous les clients. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup observé. Et je me faisais des exercices du genre, je choisissais une personne qui venait d'arriver au restaurant et j'observais toujours cette personne-là jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Donc cette personne-là, elle passait par toutes les étapes, de la commande jusqu'à la consommation de nourriture ou d'alcool, et puis commence à danser, puis peut-être elle se sent mal, elle va et revient et parle avec les uns et les autres. Et c'était un établissement qui est fréquenté par des voyous comme des milliardaires, comme des escortes de luxe, comme des stars de cinéma ou des footballeurs ou des hommes d'affaires ou des gens fortunés tout simplement qui veulent se montrer sous la lumière des abat-jour de cet établissement.
Matière à cinéma.
C'est matière à cinéma. Voilà, c'est cette observation-là qui a aussi nourri sûrement l'imaginaire que j'essaye d'explorer après dans les films.
Allez, démarre là, casse-toi!
Nice, 2018. L'alcool, le shit, une virée en bagnole de 6 minutes, caméra à l'épaule.
Tu devrais avoir honte. Tu sais quelle heure il est?
Mais je sais pas, c'est l'heure d'aller à la messe.
Pose cette bougie! C'est interdit de faire ce genre de plaisanterie, surtout dans ton état.
Thomas, le personnage, rentre chez lui dans un état limite, accueilli par sa mère qui l'engueule, parce qu'il rentre beaucoup plus tard que prévu et qu'elle doit partir travailler. Thomas se retrouve seul, entend des gémissements dans la chambre de sa grand-mère handicapée, qui dort sur un lit médicalisé. Il entre. Et là, votre film « Je vois » Akaki Popkadze bascule, je dirais, dans la performance que j'aimerais bien que vous nous racontiez.
Alors effectivement, le personnage, il découvre que sa grand-mère, elle est dans un moment de détresse absolue. C'est quelqu'un qui doit être assisté par une infirmière normalement et qui est déjà, je dirais, en fin de vie. Et à ce moment-là, il la trouve souillée d'excréments, donc il faut vite la secourir, la consoler, la laver, la nettoyer, puis la rhabiller pour qu'elle retrouve un peu de dignité. Et où il y a aussi cette brisure, c'est pas une fille ou un fils qui trouve sa mère dans une situation de détresse, c'est un petit-fils qui trouve sa grand-mère dans une situation de détresse. Donc on n'est pas censé voir ces choses-là. Et ça, c'est des choses que mon frère a vécues avec notre propre grand-mère. Et son récit m'a tellement marqué que je voulais le mettre dans le film.
J'aimerais bien que vous nous disiez un peu comment vous l'avez chorégraphié, cette scène. Parce qu'il y a un plan séquence d'environ, je ne sais pas,
13 minutes.
Une sorte de corps à corps entre ce petit-fils et sa grand-mère.
C'est très juste ce que vous dites par rapport au corps à corps, parce que moi j'ai toujours voulu faire un cinéma de corps, un cinéma corporel, un cinéma où les acteurs sont en contact, se touchent, où la caméra est en contact avec eux et les touche presque, d'où un tournage en courte focale. Là, le personnage de Thomas, il la prend à force des bras et il l'emmène à travers les couloirs et les portes jusqu'à la salle de bain. Et en fait, malgré le personnage de la grand-mère soit dans une détresse absolue, le personnage de Thomas se retrouve aussi dans une détresse où il est confronté à la matière désagréable,
au corps volumineux,
très lourd,
aussi, oui.
Très lourd, très volumineux. Et à ce moment-là, il n'y a que la vérité du plan pour moi qui parle, c'est-à-dire c'est un plan séquence en ne trichant pas par la grammaire cinématographique que je pensais pouvoir montrer l'effort physique et la douleur du personnage.
Pas de montage.
Pas de montage. Cinéma vérité.
Pourquoi je vois ce titre ?
Nous, avec l'équipe et mon co-auteur, hein, qui est aussi Florent Hill, qui joue aussi le personnage principal, on voulait dépeindre un homme incrédule. Et quoi de mieux que de le faire subir physiquement les choses qu'il ne peut pas dénier. D'où aussi le prénom du personnage qui est biblique, qui vient de Saint Thomas, qui est dans l'incrédulité de voir le Christ ressuscité. Il veut absolument toucher le Christ pour être sûr que c'est bien lui.
Donc réflexion à plusieurs étages, hein, sur la forme, sur le fond. Une performance d'acteur effectivement signée Florent Hill, qui signe aujourd'hui doublement Brûle le sang, puisqu'il a coécrit ce scénario avec vous, Akaki Popkadze, et qu'il incarne le rôle principal aux côtés de Nicolas Duvauchel. Sur quoi repose la complicité de ce tandem ?
Alors Florent, moi je dis souvent que c'est mon âme sœur artistique. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais pour moi, ça veut dire quelque chose.
On a l'image. Hein.
Et Florent, alors, pour être très concret, il est très littéraire, il a fait des grandes études de droit, il a fait du théâtre, enfin, il a lu tous les classiques, que ce soit de la tragédie grecque et autres. Et ça, ça m'aide beaucoup à moi qui a découvert la littérature sur le tard et qui est très visuel. Moi, j'ai des images qui me viennent ou qui me hantent et je discute pendant des heures avec Florent et lui, il arrive à donner une narration, un fil conducteur, un fil rouge à tout ça. Pour qu'on arrive à ces images-là, je suis obligé de passer par Florent.
Allez, c'est parti, on part en continent. En avant.
S.
Ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus.
C'est bon, Tristan, c'est bon, c'est bon, il est parti. T'es sérieux, frère?
Est-ce comme signe particulier?
Est-ce qu'on peut dire qu'on a là deux piliers de votre construction personnelle et artistique, Kaki Popkadze, la pratique du judo et la lecture du Nouveau Testament?
Tout à fait, on peut dire ça. C'est des choses qui m'aident à me construire, que ce soit le judo physiquement ou le Nouveau Testament psychologiquement ou spirituellement surtout.
Est-ce que vous y trouvez des points communs dans ces deux univers?
Il y a un code d'honneur dans le judo, comme le contrôle de soi, le respect, qui sont des valeurs assez chrétiennes aussi. On peut faire un parallèle, bien sûr, avec le rituel aussi. Par exemple, au judo, on salue le tapis.
Vous aimez ça, les rituels, hein?
Moi, j'aime bien. Ça peut être comme on doit se signer devant une icône. Bien, il faut se saluer quand on passe sur un tapis. Donc, j'aime bien quand il y a des règles pour des gens et qu'ils les respectent. J'aime bien avoir un cadre.
En tout cas, deux veines qui circulent dans Brûle le sang, votre premier long métrage sorti en salle il y a peu. Le film s'ouvre et se referme sur une benne à ordures dans laquelle on se débarrasse des corps assassinés. Entre ce début et cette fin, un drame familial va bousculer la communauté géorgienne et une bande de mafieux. Le tout se passe à Nice, bien loin de la carte postale avec ses palmiers et sa promenade des Anglais. Un assassinat mené par deux hommes en scooter, magnifiquement filmé, va se dérouler sous nos yeux et nous faire entrer dans le drame familial. Quel est ce drame familial qui ouvre Brûle le sang?
Le drame familial, c'est l'assassinat du père de la famille. Et donc la mère se retrouve seule avec son fils cadet. Et c'est alors que débarque et revient d'un long exil le grand frère, le fils aîné,
Gabriel,
qui veut laver l'honneur de sa famille.
L'ange exterminateur, allais-je dire.
L'ange exterminateur, oui, qui veut en fait retrouver une place dans sa famille, mais qui s'y prend un peu mal. Et qui essaye de renouer ses liens avec son frère, qu'il n'a pas vu depuis 10 ans.
L'excitation première, c'était quoi exactement? Est-ce que c'était signer un thriller qui sonne juste?
L'excitation première, c'était d'absolument mettre un pied dans la cour des grands, c'est-à-dire de passer du court-métrage en long-métrage. Il y avait cette soif de cinéma, cette soif de faire un long-métrage personnel, mais dans une fiction de genre.
Sacré challenge, hein, quand même.
Oui, sacré challenge. Mais c'était important qu'il y ait du spectaculaire, de l'amour du cinéma et du vécu personnel, en fait, dans une même œuvre.
Un polar esthétique et très maîtrisé, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est la critique, même si je le pense avec la critique. Avec, donc, si on reprend la trame, avec cet assassinat où on s'est trompé de cible, oui. L'heure des représailles va monter la tension entre communautés géorgiennes, gitanes, bulgares, russes, et aussi dans ce tête-à-tête fraternel et tragique, incarné par Nicolas Duvauchel et Florent Hill, l'un ex-voyou repenti et l'autre futur prêtre orthodoxe. Avec, dans ce polar, de nouveau, Akaki, une manière de filmer les corps très chorégraphiée. Exemple, dans cette scène où le grand frère fait un cauchemar, son petit frère le calme.
Alors là, c'est un moment où les deux frères, où leurs corps s'entrelacent, luttent, c'est entre bagarre et caresse.
Et conscience en fait, et semi-conscience.
Conscience, semi-conscience, sommeil, entre sommeil et éveil, où il y en a un, il est somnolent, l'autre qui est éveillé. Et en fait, ils sont filmés dans un plan continu. Et après, vous avez une coupe, on s'éloigne et on voit en fait que la mère est là aussi. Et en fait, ils sont ensemble, mais en même temps, ils sont séparés. Ils sont séparés par les lignes verticales de l'appartement, des murs. Et en même temps, on voit les jambes des frères, mais pas leur corps. On voit le torse de la mère, mais pas ses jambes. C'est pour l'instant, pour moi, une famille encore désunie.
Fragmentée.
Fragmentée. Que le cinéma, la caméra essayent de mettre ensemble, mais pour l'instant, ils s'en échappent.
Avec un zoom en même temps et un regard sur la violence jusque dans le sommeil, comme si les corps de ces deux frères antagoniques ne pouvaient se rapprocher justement que dans le sommeil.
Oui, parce que lorsque les deux sont réveillés, ils n'arrivent pas à se parler. Et leur connexion, elle passe par la physicalité, par la lutte des corps. Semi-éveillé dans cette scène-là, puis plus tard au judo, complètement éveillé, mais où il y a un débordement de violence d'un frère envers l'autre.
Bel équilibre, hein, je trouve, entre le visuel Merci. Et les dialogues. Mais on va s'arrêter de nouveau sur un plan-séquence, parce que je crois que ça, c'est vraiment votre truc, les plans-séquences.
J'aime bien, ouais.
Kakaki. Une scène incroyable où... Enfin, on nous guide, la caméra nous guide de façon serpentueuse dans le club d'un parrain glaçant, interprété par Denis Lavant. Je vous laisse nous faire vivre cette caméra. C'est open bar, c'est le cas de le dire.
Oh Marco, hey, doucement. Oh.
Alors là, on a le personnage de Nicolas Duvauchel et de Finnegan Wolfhard qui arrive dans ce club. Et moi, je voulais montrer un peu cette ambiance du sud, de la Côte d'Azur, plus festive et estivale que mondaine. On a une foule qui va dans un sens et nos personnages prennent un autre chemin. Ils entrent par la petite porte, par la porte dérobée. Et en fait, l'immeuble, c'est une rotonde et le dance floor, c'est-à-dire l'endroit où tout le monde fait la fête, est au milieu. Et nous, on a fait le choix de ne jamais aller à l'intérieur et toujours tourner autour de ce lieu, donc, et passer par les coulisses de l'établissement et découvrir surtout cet endroit avec Gabriel, avec son personnage, à hauteur des yeux. Et puis, quand on croit qu'on va aller vraiment dans le cœur du club, on s'engouffre au sous-sol, on passe par les cuisines. On voit les danseuses qui se préparent pour aller faire le show et on les accompagne un peu. Et puis en fait, on refait demi-tour, donc toujours dans cette attente de voir ce qui va se passer, frustration du spectateur et dans cette frénésie en fait, dans une accélération, dans un mouvement perpétuel et qui me correspond beaucoup, je trouve. Parce que j'ai l'impression d'être dans cette phase d'accélération où je pense être pressé par le temps et où j'ai envie de tout faire, tout lire, tout écrire, tout filmer. J'ai l'impression d'être pressé par le temps.
Des dialogues aussi et des personnages très ciselés. En un adjectif, Akaki Popkadze, si vous deviez me définir... celui qui fait le guide hein, dans cette scène de fête, Marco, interprété par Finnegan Oldfield.
hors sol, je dirais. Ouais. Très animal, instinctif, à fleur de peau. Où il suffit d'une étincelle pour qu'il parte en toupie. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de personnage.
Jacques, campé par Denis Lavant.
Diabolique, je dirais.
L'émir, campé par Sandor Funtek.
Rêveur.
Un film rythmé par des chapitres. Au nom du Père,
oui.
Premier chapitre. Vaincre le mal, deuxième chapitre. Tu ne tueras point,
oui.
Troisième chapitre. Console ma peine, quatrième chapitre. Pourquoi ce chapitrage, là, de nouveau?
Alors, dans Brûle le sang, ça me permettait de mettre en valeur l'écriture géorgienne, parce que le chapitrage est en géorgien et sous-titré. Parce que moi, je trouve... Bon, forcément, c'est mon pays d'origine, donc je trouve l'écriture belle. Ça permet aussi d'un point de vue rythmique d'aérer un peu et de ne pas être que thriller, que polar, que mafia ou gangster. Ça permet aussi d'extérioriser un peu les pensées du personnage sans qu'il les dise lui-même, sa philosophie en fait de vie. Et ça vient en contrepoint avec ce qui se passe. C'est bien sûr vaincre le mal, tu ne tueras point, des dogmes familiales.
Cela dit, Tristan, donc... vengera son frère, je ne dis pas tout, mais enfin, il vengera Gabriel. Donc, Tristan a du sang sur les mains et il va devenir prêtre. Est-ce qu'il résout, selon vous, la question du bien et du mal? Parce que ça a l'air d'être une question, là aussi, qui vous intéresse.
Oui, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Moi, je suis très attaché, je dirais, à la laideur du monde et à la violence qui nous entoure, qu'elle soit physique, psychologique, morale, sociale,
attaché,
peu importe.
Vous voulez dire inquiet de la laideur du monde?
Elle existe, du coup j'essaye de l'explorer, l'observer en tout cas avec la caméra. Voilà, je préfère que le crime soit sur scène. Donc, mais le personnage de Tristan qui est tiraillé entre le bien et le mal, entre le libre arbitre et ses obligations, je ne pense pas du tout qu'il résout quoi que ce soit, mais je pense que les épreuves qu'il vit l'obligent à regarder davantage dans son cœur et essayer d'explorer le chemin qu'il a choisi plus en profondeur, en fait.
Enfin, il exprime tellement bien la contradiction du genre humain. Pourquoi ce titre, Brûle le sang?
Alors ce titre, il vient de tout ce qu'on a dit par rapport aux racines, au déracinement, au fait qu'il faut un peu... couper le cordon, c'est comme s'il y avait des racines qui brûlaient en fait. Mais le titre, il a pris sa forme après la découverte d'un poème de Nazım Hikmet, d'un poète qui est né en Thessaloniki, qui est turc, oui, qui est né en Thessaloniki et qui m'a fait découvrir Florent Hill, oui, le co-auteur du scénario. Et c'est un extrait de poème qui dit « Si je ne brûle pas, si tu ne brûles pas, si nous ne brûlons pas, alors comment les ténèbres deviendront-elles clarté ?»
À signaler d'ailleurs que Brûle le sang sera diffusé sur Canal+, le 22 juillet à 21h, à bon entendeur. Est-ce qu'on a une petite place encore pour un petit pop-corn? Thibaut Baduel me dit « Je sais pas trop ». Bon allez, on va se faire notre minute cahier du cinéma. Avec un de vos réalisateurs de chevet, Akaki, j'ai nommé Robert Bresson, à qui on doit Pickpocket, Au hasard Balthazar,
oui.
Et Procès de Jeanne d'Arc.
Mon nom est Jeanne, j'ai 19 ans.
Jurez de dire la vérité.
Je le jure.
Où avez-vous été baptisé?
Dans l'église de Don Rémy.
Qui vous a pris votre croyance?
J'ai appris de ma mère le paternoster, l'Ave Maria et le Credo.
Dites à paternoster.
Confessez-moi, je le dirai en confession.
Cela entendu, nous, évêques, interdisons à Jeanne de sortir des prisons qui lui ont été assignées dans ce château de Rouen.
Je n'accepte pas cette défense.
Vous avez déjà tenté ailleurs et pas plusieurs fois de vous échapper.
Comme tout prisonnier en a le droit.
Vous avez donc pris les minutes des procès, vous avez pris ce qui aurait donné 10 heures, et vous l'avez réduit, vous l'avez retransformé en un film qui dure d'ailleurs... très peu de temps. C'est un regret que il dure, je ne sais pas, je n'ai pas regardé ma montre, mais quand ça a été terminé, je me suis dit que je serais resté bien davantage pour comprendre bien davantage et pour éprouver bien davantage le drame de Jeanne d'Arc. Il dure combien de temps, votre film?
Je crois 1h10 environ, entre 1h10 et 1h15.
Mais vous l'avez voulu comme cela.
Mais c'est le film qui l'a voulu. Je crois beaucoup à l'improvisation, ouais. Mais dans un cadre très prémédité, très strict.
Oui.
Il faut laisser le film, j'ai modifié énormément de choses en cours de route, il faut laisser le film prendre son visage et regarder ce visage dans tous les sens et essayer de suivre la direction qu'il, enfin ce qu'il devient quand il se forme. Oui. Tandis que les films qui sont des exécutions de plans préconçus ne sont au fond et ne sont jamais que de l'artisanat. Donc il est impossible de penser que le cinéma est un art si celui qui fait le film sait exactement à l'avance, à un plan préconçu, prend des acteurs dont il sait exactement ce qu'ils feront, comme les vedettes par exemple, dont on sait exactement ce qu'elles seront dans tel film.
Tandis que quand on prend des gens dans la vie, comme vous le faites...
C'est l'inconnu et la surprise à chaque seconde.
Oui, et c'est pour cela que
je reprends le mot de Valérie qui est merveilleux, quand je travaille, je me fais des surprises.
Alors, n'êtes-vous pas en contradiction, Akaki Popkadze, avec les leçons de votre maître Robert Bresson qu'on entendait là dans un extrait des Mardis du cinéma en 88 sur France Culture, mais on est bien sur RFI.
Ouais, Robert Bresson, c'est le maître absolu du cinématographe.
Que vous avez ramené, hein, vous l'avez là, sous les yeux.
Que j'ai ramené sous les yeux, oui.
C'est le film qu'il a voulu, dit-il. C'est le film qui décide.
Oui, c'est très juste. Je suis 100% d'accord avec ça.
100% d'accord, mais est-ce que vous faites du cinéma ou du cinématographe en nous redonnant la nuance
Ah, je ne sais pas. J'essaie de faire du cinéma.
Je me disais qu'avec le parcours de vie qui est le vôtre, vous auriez pu tomber, si j'ose dire, dans le récit de vie, le récit intime, mais vous avez apparemment jeté votre dévolu sur la fiction.
Tout à fait. Moi, je pense que la fiction, elle permet d'explorer plus de facettes de l'humain, en fait, et d'aller loin dans l'exagération. On peut exacerber les choses et jouer du réel, et jouer du spectateur, le manipuler, et ainsi quand même capter des vibrations de vérité grâce à la pellicule.
On va mettre un pied dans la vie, malgré tout. Si je vous dis Darajan.
Oui.
On va entendre la voix de Darajan, c'est votre grand-mère, puisque pour En sol majeur, vous l'avez enregistrée. Vous échangez avec elle sur la vie qu'elle a eue. 2 enfants, 5 petits-enfants, 9 arrière-petits-enfants. Elle se dit donc bien heureuse. Que vous a transmis Darajan, cette mamie géorgienne?
Ma petite mamie, Darajan. J'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance avec elle. Quand elle me préparait à manger, quand elle me lisait des histoires, des poèmes. Il me reste son odeur. Et je me rappelle, quand j'étais petit, c'est une dame qui avait une très grande poitrine. Et comme moi, j'étais tout petit, en fait, je me blottissais contre elle. Et pour moi, c'était vraiment des coussins. Et je me reposais, je m'endormais tout le temps sur elle. Protégée.
Როგორი ძაროვი კაი ბავშია. ხო, კაი. მაღალია, 3 წლისაც არის, ყველა უფრო დიდია.
4 წლის ბავშვის პარამეტრები. ხო, ყველა სიმაღლე 4 წელი.
ხო, აი კარგი ბავშვია, ძალიან. აი ლამაზად ვაცია და ლამაზად
არის. აა,
აა, აბარა, აბარა.
ბანჯავს მე თან ცენეს ლოგები ეჩუტება 1000-ზე.
ხო. მეტია, შოი.
Dans quelle langue dites-vous l'amour?
Akaki Popkadze.
Moi, je l'ai dit en géorgien parce que ma femme, elle est géorgienne. On s'est rencontrés en Géorgie, on s'est mariés en Géorgie. Et maintenant, on a un petit enfant qui s'appelle Johan. Et c'est de lui que parle ma grand-mère dans cet extrait-là.
Donc, il y a du géorgien dans le biberon du fiston, mais il pourrait y avoir aussi du russe. En tout cas, vous pourriez partager pour En sol majeur un petit bout de Guerre et paix en russe, puisque vous le lisez en russe.
Oui. C'est une richesse qui me reste et que je garde précieusement. Mes années passées en Russie font que je maîtrise toujours la langue russe. Et je me suis lancé dans ce défi de lire les œuvres, les grands classiques russes en russe, dont Guerre et paix.
Qui commence en français, donc on va sauter la première
Alors,
phrase.
Alors, dont le premier paragraphe est en français, et puis après c'est en russe. Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрицы Марии Федоровны, встречая важного и чиновного князя Василия, первого приехавшего на ее вечер.
Je comprends d'où vient ce côté traînant dans votre voix. Est-ce que ça vient de la langue russe ou de la langue géorgienne ou des deux combinés?
C'est marrant comme observation. Alors peut-être le fait que je passe d'une langue à l'autre à chaque fois, peut-être a fait que je me suis attaché à aucune rythmique interne d'une langue en particulier. Mais après, ça vient aussi de la région d'où je viens moi exactement.
Ouais.
Les gens qui viennent de ma région, en Géorgie, parlent de manière assez lente et monotone, un peu tous comme moi. Mais oui, c'est un peu cet alliage des origines et puis de toutes ces langues que je parle au quotidien en plus, parce que j'ai des amis russophones, anglophones, francophones, géorgiennophones.
En tout cas, ces multiples langues et ces multiples cultures qui sont vôtres, elles vous ont sans doute transformé au fil du temps. Est-ce que cette transformation est davantage bouleversante ou davantage une force pour vous ?
Pour moi, j'essaye de le voir comme une force. J'essaye de me reposer sur les acquis, entre guillemets, linguistiques que j'ai pour pouvoir converser avec plus de personnes, pour plus de musique, plus d'idées.
Une expansion de vous-même.
Je l'espère, oui. Et j'essaye de le cultiver vraiment et de l'améliorer.
Je ne vous ai pas encore posé la question, mais c'est l'heure en sol majeur. Est-ce que c'est difficile de s'appeler Akaki Popkadze dans le milieu du cinéma français ?
Oui, c'est compliqué pour un simple appel téléphonique. Ah, ka, quoi, comment, pop, ka, quoi. Enfin, ça a toujours été compliqué.
On vous a déjà demandé de changer votre nom ?
On m'a déjà suggéré de changer mon prénom, beaucoup, au collège, au lycée.
Ah oui, ça remonte.
Oui, ça remonte. Et on m'a même, y a des professeurs qui ont décidé de m'appeler Nicolas à un moment, quand j'étais en cours au collège. Ça a l'air de rien, mais en fait, beaucoup plus tard, quand je suis allé chercher mon diplôme de bac au rectorat de Nice, sur mon diplôme, il y a écrit Akaki Nicolas Popkadze. Oh. Bon, j'en ris, en même temps, c'est pas drôle. Et c'est sur mon diplôme.
Ben, en sol majeur est fier de pouvoir dire que vous signez magnifiquement ce premier long métrage Brûle le sang au nom de Akaki Popkadze. Merci à vous au générique de cet en sol majeur donc, qui vous est consacré une corne de bélier pour boire à la géorgienne. Eh oui, ça manquait. Et puis une bande-son sur la partition de Guillaume Ferrand qui signe la musique de Brûle le sang. Bande-son en 2-3 claps. Clap première. Clap deuxième.
Il faut laisser le film prendre son visage et regarder ce visage dans tous les sens et essayer de suivre la direction qu'il, enfin ce qu'il devient quand il se forme.
Clap troisième.
Tu viens d'où exactement?
Géorgie, tu connais?
Quelle religion?
Pourquoi? C'est moins cher si on a la même.
Tu réponds toujours à côté de toi.
Émission à retrouver, vous le savez, en podcast sur votre application Pure Radio. Thibaut Baduel, Yasmine Chouaki, on fait comme d'habitude dimanche prochain pour d'autres aventures en sol majeur. On se retrouve dans un instant, votre journal suivi de Mondial Sport.